France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Nous sommes le 25 septembre et c'est la journée nationale d'hommage aux harkis. Une cérémonie officielle a lieu ce matin aux Invalides et dans tous les départements pour reconnaître le sacrifice de ces dizaines de milliers d'Algériens qui ont rejoint les rangs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'est ce que votre père a fait, Dalila Kerchouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter à Madame Figaro et vous avez écrit plusieurs livres sur cette histoire de harkis. Vous-même êtes né dans un camp de harkis dans le Lot-et-Garonne. Alors on sait déjà ce que le gouvernement va officialiser aujourd'hui, notamment une enveloppe de 40 millions d'euros sur 4 ans pour les enfants de harkis. Vous dites quoi? Enfin?
Non, je dis, ce plan me donne la nausée. Comme les différents gouvernements successifs, ce plan Macron ne prend pas en compte la pleine mesure de ce qu'a représenté le drame des harkis. Pour moi, il exonère le gouvernement français d'un examen de conscience nécessaire et approfondi qu'exige cette page honteuse de l'histoire de France. Le mot « harkis » est un piège. Remplacez le mot « harkis » par le mot « français » et vous comprendrez. Imaginez 70 000 Français abandonnés par la France à la fin d'une guerre, de la guerre d'Algérie, livrés, désarmés et livrés à l'ennemi d'hier, massacrés alors que l'armée française est cantonnée dans les casernes et avec ordre de ne pas intervenir. 70 000 Français massacrés. Imaginez que sur les 100 000 survivants, les rescapés, ces 50 000 sont accueillis en France et parqués dans des camps comme s'ils arrivaient dans la pire des dictatures, dans des camps derrière des barbelés. Et moi, je suis née, j'ai 45 ans, je suis française, je suis née derrière des barbelés. Et j'ai grandi avec l'idée que, parce que mon père s'est battu pour la France, s'est engagé comme militaire pour la France, il a été privé de ses droits fondamentaux de citoyen français. Liberté, égalité, fraternité, pour ma famille, on n'y a pas eu droit. On a été littéralement privés de nos droits fondamentaux, comme la plupart des harkis.
Et qu'attendez-vous alors d'Emmanuel Macron? Il y a déjà eu 7 journées d'hommage instaurées par Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy lui a été le premier président à se rendre dans le camp le plus important, le camp de Rivesaltes. François Hollande lui a reconnu la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que les harkis attendent d'Emmanuel Macron?
Je pense que c'est difficile à dire parce que moi je parle en mon nom, je ne suis pas porte-parole de la communauté harkis et je n'en ai pas la prétention. Et moi ce que j'attends, c'est que un président français aujourd'hui redonne sa dignité à mon père, qu'un président français redonne sa dignité à leur dignité à tous les harkis. Vous avez prononcé le mot sacrifice au début. Les harkis ne se sont pas sacrifiés. Les harkis ont cru aux valeurs de la France. Les harkis se sont battus pour des valeurs, pour les valeurs de la France.
Le mot sacrifice, c'est celui qui a été officiellement utilisé lors de la création de cette journée d'hommage.
Tout à fait. Et ce mot me gêne terriblement parce que ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question de loyauté. Et je voudrais que la loyauté de mon père et des harkis vis-à-vis de la France soit reconnue et soit honorée.
Il faut que la France dise pardon.
Il faut que la France reconnaisse, prenne ses responsabilités.
Et ça veut dire quoi exactement?
Reconnaître ses responsabilités, ça veut dire, moi je voudrais savoir qui a décidé de l'abandon des harkis. Que les hauts fonctionnaires, les ministres, toutes les personnalités politiques qui ont décidé, qui ont broyé la vie de ces familles, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, en les abandonnant, en les parquant dans des camps, les internant de force. Je veux qu'ils prennent leurs responsabilités, que on ne peut pas avec simplement un plan faire tourner une page de l'histoire qu'on n'a pas lue. Qui a décidé de créer cette administration discriminatoire dans laquelle beaucoup d'argent ont été mis depuis 1962 jusqu'en 1987. Le dernier camp de harkis a fermé en 1987. Donc pendant 25 ans, il y a eu un acharnement administratif légal à l'encontre des harkis. Je peux vous parler...
Donc vous voulez quoi? Vous voulez un procès? Vous voulez que la justice justice mette son nez là-dedans.
Je veux qu'il y ait une véritable commission d'enquête indépendante, une commission parlementaire, qu'il y ait une commission un peu comme la commission vérité et réconciliation qui a été mise en place en Afrique du Sud après l'apartheid.
Certains d'ailleurs utilisent le mot d'apartheid pour la situation des harkis en France. Vous l'utilisez vous aussi?
Moi, je ne compare pas. Je ne veux pas comparer des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Moi, j'essaie de trouver les mots justes. Pour moi, c'est une indignité, c'est une ignominie.
Vous souvenez-vous de vos conditions de vie dans le camp de Bias où vous êtes né, la faim, le froid, les maladies?
Non, parce que moi j'avais 1 an et demi quand mes parents ont quitté le camp. Mais par contre,
ils vous ont raconté
tous mes grands frères et mes grandes sœurs. Je suis la dernière d'une famille de 11 enfants. C'est toute l'enfance et l'adolescence de mes frères et sœurs. Oui, ils m'ont raconté le dénuement effroyable. Ils m'ont raconté les aides qui arrivaient dans des valises de billets, qui allaient directement dans les poches du chef de camp. Ils m'ont raconté cette administration, cette vingtaine de fonctionnaires payés par l'État français pour brimer, humilier mon père et les harkis. Le lever obligatoire tous les dimanches matins pour saluer le drapeau français.
Les baraquements
insalubres et les deux moyens de rétorsion, parce que les harkis étaient terrorisés par cette administration. Et les deux moyens de rétorsion, c'était l'envoi des pères à l'hôpital psychiatrique d'Agen. Les harkis qui se rebellaient étaient systématiquement internés de force. Et la deuxième mesure de rétorsion pour terroriser les harkis, c'était le rapt des enfants. Je veux dire, il faut comprendre ce qui s'est passé dans cette ancienne prison, parce que mes frères et sœurs, moi je suis née dans une ancienne prison. Un camp d'une dizaine d'hectares entouré de barbelés, dans lequel étaient enfermées 1000 familles avec un portail cadenassé la nuit, un couvre-feu le soir. Voilà, c'était des conditions carcérales.
Et vous avez eu besoin à un moment d'en savoir plus sur ce qui s'était passé sur votre famille et vous êtes allée en Algérie.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'est passé là-bas?
Comment ça s'est passé? Ça a été un voyage extrêmement bouleversant pour moi. J'ai été accueillie. J'avais très peur parce que j'avais peur d'être accueillie comme la fille d'un traître. Eh bien, pas du tout. J'ai été accueillie comme une enfant du pays. J'ai été accueillie à bras ouverts par ma famille là-bas. Ce n'est pas le cas de tous les harkis, malheureusement, parce que beaucoup sont refoulés à la frontière par le gouvernement algérien. Mais non, j'ai été très bien accueillie là-bas.
Merci beaucoup, Dalila Kerchouche, pour votre témoignage, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans votre livre « Mon père, ce harki », un livre qui a été publié il y a 15 ans, mais l'histoire n'a pas changé, hein, tout est resté pareil. Vous êtes journaliste et grand reporter au Figaro Mada. Merci d'être venu ce matin sur France Inter.
Merci.